On accueille maintenant Paula au 39-21. Bonsoir Paula.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Paula et quel âge avez-vous ?
Alors j'appelle du Bas-Rhin à côté de Strasbourg, j'ai 38 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Paula ?
Alors en fait en 2016, il s'avère que j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde et qui a été traitée mais sans affection de longue durée auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Et donc là, mois d'octobre de l'année dernière, donc 2020, j'ai dû arrêter mon travail.
Oui.
Et puis donc j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines presque. Et puis on m'a fait toute une batterie de tests et tout ça. Et puis donc on m'a reconnue donc ALD pour la polyarthrite au mois d'octobre de cette année, de 2020. Par contre, j'ai pris une assurance privée en 2017, c'est-à-dire une prévoyance, qui était prête à me verser au bout du 30e jour 450 euros par mois en plus de mes indemnités journalières. Donc j'ai monté un dossier et j'ai envoyé tous les papiers, tous les résultats en fait des médecins, j'ai envoyé ça à mon assurance privée qui refuse actuellement de me payer. Parce que, en fait, ils disent que j'ai, au préalable, j'avais une ALD en 2016. Or, que ce n'est pas vrai, parce que j'ai contacté la CPAM aujourd'hui et je leur ai demandé et ils ont dit qu'ils m'enverraient le dossier médical, en fait, de tout le début, en fait.
D'accord.
Et puis, là, du coup, maintenant, je me pose la question, si parce que demain, ils veulent m'appeler à 14h. Pour voir, pour me dire en fait que j'ai le droit à rien du tout, alors que je sais déjà via de mon assureur privé qui vient à la maison des fois. Il m'a téléphoné, il m'a dit comme quoi, ben voilà, que je ne pouvais pas bénéficier de ces 450 euros par mois parce que j'avais pas l'ALD, enfin voilà. Donc, bref, donc ils vont m'appeler demain à 14h. Maintenant, moi, j'aurais juste aimé savoir. S'il y a des auditeurs qui pourraient m'aider, me renseigner, parce que là, je ne sais pas comment me retourner au cas où si ça serait négatif.
Oui, parce que alors là, vraiment, moi, je suis incapable de vous... je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai aucune idée de tout ça, en fait. Je ne connais pas, en fait.
Oui, parce qu'en fait, en 2016, j'étais en ALD uniquement pour la première pathologie. J'étais pour la pathologie du rein, parce que j'ai une glomérulonéphrite côté rein droit. En fait, peut-être il y a des docteurs qui nous écoutent. Je pense que peut-être qu'ils pourront peut-être m'aider ou intervenir, je ne sais pas. Et puis, donc j'ai été en ALD pour cette pathologie-là, mais pas pour la polyarthrite rhumatoïde. C'est ça, en fait. Et là, je suis un peu perdue parce que j'ai demandé donc mon dossier médical. Et ce dossier médical, je vais l'envoyer donc à mon assurance prévoyance. Quoi.
Mais en gros, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Paula. C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on est malade en France, normalement, en arrêt de travail, il n'y a pas de discussion possible, en fait. On doit être rémunéré une partie par le patron et une partie par la sécurité sociale.
Merci, Olivier.
Mais
merci.
Oui, enfin...
Oui. Ben en fait, je travaille dans un hôpital, hein.
Oui.
Et en fait, là, j'ai les indemnités journalières que par la CPAM et les 3 jours de carence, ceux-là, on me les paye.
D'accord.
Ça, c'est pas de souci.
Et l'hôpital ne veut pas payer autrement l'indemnisation qu'il a à payer,
non.
Pardon.
Non, 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 non. En fait, parce que moi, j'avais pris une assurance privée. Et cette assurance privée fait partie de mon assurance décès.
Mais ça ne les regarde pas que vous ayez pris une assurance privée.
Je suis d'accord.
L'hôpital, il doit payer en tant qu'employeur. Enfin, en tout cas, moi, je m'en réfère au moment où j'ai eu un restaurant-bar il y a une dizaine d'années. Enfin non, il y a même une quinzaine d'années. Donc, j'ai eu des personnes qui, de temps en temps, il y en a une qui avait quelque chose au poignet, la cuisinière, et qui l'empêchait de faire de la cuisine. Bon, c'était le canal là, qui s'était bouché. Bon, elle a été en arrêt un mois et demi. Je me souviens qu'on avait, nous, une partie à payer en tant qu'employeur. Et puis qu'ils étaient payés, enfin qu'il y avait un complément de payer. Et je ne comprends pas pourquoi on vous refuse, au nom de quoi on vous refuse d'être payé normalement. Votre assurance, c'est une, C'est une mutuelle dont vous me parlez ?
Non, c'est une prévoyance privée.
Une prévoyance, d'accord.
Je veux bien dire le nom de l'assurance, vous allez tout de suite comprendre, mais je veux dire, pour moi, c'est pas juste, en fait, parce que on me paye des indemnités journalières tous les 14 jours, qui sont un montant de 322 euros,
oui.
Tous les 14 jours, mais je comprends pas, quelque part, il me manque des sous aussi, c'est ça.
Ben oui, il vous manque l'indemnité. Alors, en fait, qui refuse de vous payer ? C'est votre assureur, votre prévoyance, là ?
Oui, la prévoyance, en fait, l'assurance privée.
Voilà. En gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous leur donniez de l'argent, et puis le jour où vous êtes embêté, ils ne sont pas d'accord.
C'est exactement ça. Moi, je paye tous les mois ma cotisation, je paye 27 euros.
Depuis combien de temps ?
Depuis 2017 que j'ai signé le contrat.
Bah, ça va, hein.
Mais les messieurs ne sont pas d'accord parce qu'en 2016, j'avais déjà un problème rhumatologique, mais je n'étais pas en ALD, en affection longue durée.
Oui, vous n'étiez pas, en tout cas, évalué comme ça. Vous n'étiez pas malade comme ça.
Voilà, et depuis le mois d'octobre, je suis évaluée en tant que personne ayant une maladie auto-immune, une polyarthrite rhumatoïde, et ça, ils ont du mal à l'entendre. Alors, effectivement, avant 2016, j'avais une glomérulonéphrite au niveau du rein, ok, mais ça n'a rien à voir avec la polyarthrite.
En fait, en gros, ils vous disent que vous leur avez menti, en gros.
C'est ça. Et voilà. Moi, j'ai le compte rendu de mon néphrologue qui me dit que le statut érosif de la polyarthrite rhumatoïde est inconnu. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec mon rein.
Et est-ce que vous avez moyen de porter ça en justice ?
Ben, je veux savoir comment faire, Olivier. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Ben, il faut porter
plainte. J'ai passé une contre-expertise et le médecin expert pour la contre-expertise, il me dit comme ça, yeux dans les yeux au niveau du bureau, il me dit, ben oui, dans la tête, tout va bien, mais c'est physiquement que ça ne va plus chez vous. Mais comment je dois prendre ça, Olivier ?
Ben mal. Ah non, mais...
Mais non, mais on est d'accord. Non, mais... Et lui, il a fait le rapport, donc, parce que c'est l'assurance qui a demandé une contre-expertise pour voir si je mentais pas.
D'accord. L'expertise, la première expertise, vous donnez raison, et la contre-expertise commandée par votre assurance de prévoyance a pris un médecin à elle qui a dit que c'était le contraire.
Exact.
Voilà. C'est étonnant.
Alors,
puisque c'est elle qui paye ce médecin, c'est étonnant qu'il dise ça.
Alors que j'ai deux professeurs et j'ai un médecin, un rhumatologue. J'ai deux professeurs de l'hôpital de Strasbourg, plus encore un rhumatologue. Et tous les trois, ils appuient sur le fait comme quoi j'ai une incapacité de travail pour le moment, que ça ne va pas, et si et ça, et que les résultats, et les scanners, et les IRM, et les densitométries, et tout ça, ne sont pas bons, les résultats ne sont pas bons, les prises de sang ne sont pas bons, voilà. Mais ils appuient toujours encore dessus que, voilà, non, je mens.
Et c'est très désagréable d'être accusé de mentir alors que vous ne mentez pas, parce que vous savez...
C'est ça, et ce soir, je me suis tellement énervée, Olivier, je ne vous mens pas, mais je me suis tellement énervée que j'ai reçu tellement mal à la tête que j'arrivais presque pas à manger. Tellement, déjà qu'il me manque beaucoup de poids, et que c'est une maladie très dure, déjà handicapante, voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Hein.
Je comprends que vous ne savez
pas. Et j'ai maigri, j'avais 55 kilos qui n'est déjà pas bien gros, j'en ai 48. Il faut peut-être arrêter quelque part. Hein.
Mais il y a quand même là quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, c'est qu'on ne vous écoute pas, surtout.
Mais c'est ça. Et on me demande de faire une contre-expertise. Mais dans ce cas-là, si on me demande de faire une contre-expertise, moi aussi j'ai le droit d'en demander une, non ?
Complètement. Complètement. Mais est-ce que vous avez pensé à prendre un avocat ? Vous avez le droit, vous savez, l'aide... comment ça s'appelle ?
Juridictionnelle.
Ouais, l'aide juridictionnelle.
Oui, parce que comme je suis seule avec un enfant...
Ben oui, vous avez le droit à ça. Ouais. Hein. Et ça vaudrait peut-être quand même le coup de la prendre, cette aide juridictionnelle. Parce que là encore, vous voyez, Il faut qu'un avocat dépatouille tout ça, encore une fois, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, moi.
Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai pas le droit à mon allocation de veuvage parce que je suis trop jeune. Puis ensuite, j'ai pas le droit à mon allocation d'invalidité parce que je suis trop jeune. Puis qu'est-ce que ça sera la prochaine fois ?
D'accord, parce qu'en fait, vous avez perdu votre mari. Vous avez perdu votre mari. D'accord, et vous n'avez pas le droit à votre donc ce que vous devez toucher.
Jusqu'à l'âge de mes 51 ans, Olivier. Hein.
D'accord. Alors que vous avez payé pour tout ça, et votre mari a cotisé pour ça.
C'est ça.
Ah non, mais dans quel monde on est ? Quel monde on est ? On est obligé de toujours regarder les contrats qu'on signe et les sous paragraphes, les petits a, petits primes. C'est désespérant.
Mais c'est triste, hein.
C'est désespérant.
Ma fille a 15 ans, elle va au lycée. Je ne peux pas lui payer la comptine. Je peux pas, Olivier. Je suis obligée de lui donner tous les jours un peu de sous pour qu'elle puisse aller manger, ou alors elle rentre avec un rythmo pour venir manger à la maison. Mais attendez, on va où ?
Non, mais là, il faut que vous vraiment vous... Comme j'ai dit à Jean tout à l'heure, vous êtes dans votre bon droit, donc il faut que vous fonciez, Paula. Il faut prendre un avocat, il faut tout de suite se tourner vers l'aide juridictionnelle et puis monter au front, vous contestez cette contre-expertise, quoi, parce qu'autrement, vous allez vous faire avoir autrement. Vous allez vous faire
avoir. Mais justement, c'est pour ça que je me suis dit ce soir, je me suis dit qu'il fallait que je vous appelle, je vous écoute tous les soirs déjà, donc je me suis dit, bon, je vais vous appeler, peut-être que vous avez une solution, mais c'est bien de m'avoir guidée comme ça, parce que je ne sais vraiment pas...
J'ai pas envie de vous dire de bêtises, vous voyez, de vous orienter, je pense vraiment que c'est le métier, comme pour Jean tout à l'heure, c'est le métier d'un avocat de consulter les pièces de votre dossier et de vous dire... vous ne connaissez pas un médecin, que vous pourriez aller voir, à qui vous pourriez expliquer ça et qui puisse vous conseiller déjà avant d'aller voir un avocat ?
Bah si, j'ai mon médecin traitant.
Votre médecin traitant, peut-être posez-lui la question parce que lui, il sait, il vous a suivi, il sait que vous ne mentez pas.
Oui, bien sûr, c'est lui qui a appuyé toutes les lettres.
Voilà. Donc, il a peut-être une possibilité, lui, je ne sais pas, je vous dis ça, mais il a peut-être une possibilité d'intervenir ou de vous orienter vers la meilleure solution. Il y a peut-être un avocat qui est spécialisé dans ces histoires-là, je pense en plus, les assurances et tout ça, vous voyez ?
Oui, parce que en fin de compte, après, quand je l'avais appelé ce matin pour savoir où en était mon dossier, elle a pris un temps de réflexion, mais bien de, je ne veux pas mentir, mais 2 minutes, 2-3 minutes, Et derrière, il y avait une femme qui parlait tout doucement. L'air de dire « je suis pas là » ou voilà quoi. Donc elle voulait pas me parler, cette dame, ce matin. Et ce soir, j'ai l'assureur qui m'appelle et qui me dit « il n'en adviendra rien du tout. » parce qu'il s'avère qu'en 2016, vous aviez une ALD. Non, j'avais pas d'ALD. En fait, j'en avais pas parce que j'ai téléphoné à la caisse et j'en avais pas.
En fait, on a un auditeur ou une auditrice qui, à mon avis, est médecin, qui vient nous dire que peut-être parce qu'une polyarthrite rhumatoïde peut être passagère, mais de toute façon, Paula dit la vérité car il est très difficile de cumuler deux ADL. L'insuffisance rénale est à elle seule une ADL. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
J'ai une néphropathie, donc un problème au rein, donc une glomérulonéphrite. Donc j'ai l'ALD depuis...
Octobre, vous m'avez dit.
Non. L'ALD pour le rein était de 98 à... J'ai les droits ouverts jusqu'en 2029 pour mon rein.
D'accord.
Et pour la polyarthrite rhumatoïde, on m'a mis en ALD en octobre 2020.
D'accord, mais il faut vraiment que vous consultiez un avocat, Paula. Faites ça. Allez voir votre médecin traitant d'abord. Réexpliquez-lui bien le fond du problème. Et puis ensuite, demandez-lui si vous devez prendre un avocat pour porter plainte, si vous avez le droit à cette rémunération, il faut y aller. D'accord ?
Oui, bien sûr, oui.
Tenez-moi au courant, Paula, n'hésitez pas.
Il n'y a pas de souci, je vous remercie, Olivier.
Je vous en prie, courage à vous et ne lâchez rien.
Je voulais juste rajouter la gentillesse de Natacha et Florian. Natacha m'a appelé, elle était... mais ça fait du bien d'avoir une personne aussi gentille au téléphone. Et pour Florian, c'est pareil.
Complètement. Ils sont gentils tous les deux,
voilà.
De toute façon.
Oui, voilà. Mais vous aussi, pas de souci.
Très bien, ils vous écoutent, ils vous écoutent. Je vous embrasse, okay. Paula.
Oui, merci, moi aussi.
Au revoir.
Merci, Olivier. Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h53 et nous accueillons maintenant Lola au 3921. Bonsoir Lola.
Bonsoir Olivier.
Quel âge avez-vous Lola et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 25 ans, je vous appelle de la Tronche-sur-Mer en Vendée.
Oui.
Et sinon je suis étudiante à l'université Rennes 2, du coup à Rennes en Bretagne.
D'accord. Mais je connais Rennes.
Ah.
Rennes 2, d'accord.
Oui, tout à fait.
Et vous faites quoi? Vous m'avez dit étudiante en quoi?
Alors j'ai fait une licence de cinéma et maintenant je suis en études de langue arabe.
D'accord. Alors vous m'appelez pour me parler de la situation des étudiants, hein, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un sujet qui est un peu au cœur de l'actualité et d'ailleurs Europe 1 le met sur la table à peu près toute la semaine. Qui est d'ailleurs une très très bonne chose, donc merci à Europe 1 de faire ça, parce qu'actuellement je pense qu'on en a tous beaucoup besoin. Donc voilà, et du coup, vivant la précarité étudiante au quotidien, et la gérant aussi au quotidien, je trouvais important de porter cette voix-là, parce que malheureusement, même si aujourd'hui on l'entend un peu dans les médias, elle est encore un peu trop peu entendue, je pense, et su aussi.
Alors, dites-moi plus sur ça justement, cette situation. Comment vous la ressentez, vous? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez?
Alors, sans vouloir être trop pessimiste, parce que je pense qu'on a une actualité qui déjà n'est pas très joyeuse, et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans une souffrance qui est assez importante, on ne peut pas nier le fait que la réalité étudiante aujourd'hui, elle est urgente et elle est vraiment dommageable et je pense qu'il faut réellement se pencher dessus parce que là on vit une situation sans précédent, très très honnêtement.
Et vous le voyez à travers la situation d'étudiants que vous connaissez ou que vous avez fréquenté dans le passé?
Oui, bah déjà je le vois autour de moi, c'est-à-dire que je le vois dans mon entourage, je le vois dans ma situation personnelle et je le vois aussi parce que je suis syndiquée étudiante depuis plusieurs années.
Oui.
Et que en fait au quotidien je reçois des messages d'étudiants qui sont dans une grande détresse avec des angoisses très fortes et qui sont dans une très très grande précarité au vu de la situation et du coup tous ces profils-là, il faut les recevoir, il faut les gérer. Et je pense qu'on a vraiment peu de visibilité sur à quel point aujourd'hui les étudiants sont réellement dans une situation qui est excessivement inquiétante. Voilà.
Et comment vous expliquez que ces étudiants étaient, vous les étudiants, vous ayez été les oubliés dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois, cette dernière année?
Bah, on parle beaucoup de génération sacrifiée. Actuellement, il y a beaucoup d'articles et de médias qui emploient ce terme. On nous dit que nous, les étudiants, on est le monde de demain et qu'il faut qu'on soit fort parce que voilà, c'est nous qui, demain, allons être au cœur de la société et de la vie active. Malheureusement, je pense qu'on ne peut que témoigner d'une casse du service public depuis plusieurs années. Alors, on le voit dans les hôpitaux, mais on le voit aussi dans les études supérieures, notamment avec les sélections et puis aussi avec tout ce qui est le système de bourse qu'on n'a jamais voulu revoir depuis plusieurs années en se disant que bon, la précarité, elle était stable et que finalement... On arrivait à pas trop faire couler le navire. Et puis, en fait, on remarque que le Covid a été le cataclysme qui a juste fait voir au grand jour à quel point, en fait, non, le bateau flottait, mais il n'était pas si solide que ça. Et en tout cas, oui, le Covid a vraiment accru les difficultés étudiantes à un point assez impressionnant.
Et comment tout ça peut-il s'arranger, à votre avis? Quelles sont les premières... solutions qui devraient être mises en place, à votre avis?
Les premières solutions qui devraient être mises en place, là, on a vu, après de très longs mois, hein, après plus d'une année de Covid et d'études à distance et de détresse pourtant relayées par les étudiants, on a vu la mise en place des repas à 1 euro qui ont été étendus à tous les étudiants boursiers et non boursiers. Alors, c'est très bien, c'est une très bonne mesure. Cependant, il faudrait réellement se pencher sur le gel des loyers en cité universitaire, sur les aides financières concrètes, parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Les seules aides financières possibles sont les dossiers d'aide exceptionnelle qu'on peut faire auprès du CROUS, mais qui sont quand même difficilement atteignables. qui doivent répondre à des critères très précis, très ambigus. Et ce dont on a besoin réellement, c'est ça, c'est de l'aide financière, parce que l'aide psychologique, bien évidemment, elle est très importante, parce qu'aujourd'hui, il y a une détresse psychologique et c'est absolument certain. Seulement là, ce qu'on nous propose avec les chèques psy ne peuvent pas suffire à pallier à la détresse étudiante. C'est impossible. Ce dont on a besoin et la réelle source du problème, c'est la précarité, c'est le manque de perspective,
c'est le fait qu'aujourd'hui... C'est le manque de liens, c'est le manque et des espaces pour se décharger. D'ailleurs, on va continuer à en parler, Lola, juste après l'info qui arrive à grands pas sur Europe 1. Vous restez en ligne après moi et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
Ça marche.
À tout de suite. Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer de 39,21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites ce soir, nombreuses et nombreux, au 739-21 pour encourager Paula dans ses démarches et lui dire qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Beaucoup vous conseillent, Paula, d'aller voir un avocat. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'argent, alors le texto n'est pas signé, dommage. Allez au tribunal, retirez un bulletin de consultation pour l'avocat et vous aurez le droit à une consultation déjà gratuite d'avocat avant de demander l'aide juridictionnelle. Nous sommes toujours avec Lola qui nous parle de la situation des étudiants en France, cette situation dont Europe 1 se fait solidaire et a décidé de parler toute la semaine, et dans les semaines qui viennent, nous ne lâcherons pas pour que ces situations soient connues de vous toutes et de vous tous, et que ensemble nous venions en aide à notre niveau, hein, bien évidemment, et être solidaire avec ces étudiants. Lola, vous évoquiez cette solitude, ce manque de lien. Vous nous avez dit avoir besoin d'espace pour se décharger, parler, partager. Qu'entendez-vous par là ?
À l'heure actuelle, c'est compliqué. On est tous ou confinés dans nos 9 mètres ou 20 mètres carrés étudiants, ou alors confinés dans nos domiciles familiales. Quand je dis confinés, alors évidemment, à l'heure actuelle, la population n'est pas confinée. On a un couvre-feu, mais on n'est pas obligé de rester à domicile. Seulement pour nous, les étudiants, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, on a cours de 8h à 18h. Et du coup, il est un peu compliqué de pouvoir sortir, de pouvoir voir ses amis. Surtout que si on est confiné chez nos parents, on n'a pas forcément nos amis à côté de nous. Moi, par exemple, j'ai pas vu la plupart de mes amis depuis un an. Donc, ça fait beaucoup quand on est étudiant. Et d'ailleurs, il y a un exemple extrêmement parlant. Cette semaine, il a neigé à Rennes. Et on peut se dire que la neige, c'est juste un événement météo. Et pourtant, il s'est passé un truc assez dingue qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est mis à neiger, tous les étudiants des résidences sont allés dehors et pour la première fois, se sont parlé, on rit ensemble, on jouait ensemble. Et cette fête-là, elle a duré pendant des heures. Alors génial. Avec les gestes barrières, bien entendu. Oui. Mais je pense que ça, c'est vraiment assez parlant d'à quel point actuellement les étudiants ont besoin de soutien, de liens, de nouvelles joyeuses, de juste sortir de cette bulle où finalement on a l'impression que tout est sombre et rien ne va jamais aller, quoi.
En priant bien évidemment que cette situation s'arrête le plus vite possible, même si on sait qu'on en a encore pour des semaines. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qui est annoncé, je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles qui étaient annoncées allant dans un relâchement de la situation. Mais en tout cas, votre appel a été entendu, Lola. Sachez que nombreuses sont les personnes qui réagissent à votre intervention. Et je pense que les Français sont en train de réellement prendre conscience du quotidien, hein, de ces étudiants, comme vous dites, qui sont devant leurs ordinateurs et qui, à partir de 18h, quand les cours se terminent, voient ce couvre-feu les empêcher de même faire des courses, en tout cas de souffler un peu. Donc souhaitons que tout ça s'arrête le plus vite possible. Mille merci à vous, Lola, et courage.
Et je voulais juste rajouter, je vous embête, mais je voulais juste rajouter, avant de couper, parce que j'ai aussi entendu le témoignage précédent d'une mère qui doit se débrouiller avec le peu d'argent qu'elle a. Actuellement, on parle énormément donc, de la précarité étudiante, et je voulais juste rappeler, parce que je sais que votre antenne est écoutée par de nombreux parents qui sont certainement aussi dans la précarité, parce qu'aujourd'hui, vivre avec un ou deux SMIC, c'est clairement pas être riche. Et en fait, je voulais juste dire que même si ça peut être très culpabilisant d'entendre toujours parler de cette précarité étudiante quand on est parent, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui nous contactent et qui nous disent « Voilà, moi, je peux pas aider mes enfants, je sais pas comment leur obtenir fournir une aide financière, que dois-je faire? Et je voudrais juste dire à ses parents qu'on a aussi conscience en tant qu'étudiant que aujourd'hui la précarité, elle est globale, elle touche les travailleurs, elle touche les smicards, elle touche les restaurateurs qui peuvent pas travailler, elle touche les routiers qui travaillent pendant des heures. Cette précarité-là, elle est vraiment globale. On vit dans un système qui nous précarise et que ces parents-là qui ne peuvent pas suppléer aux besoins de leurs enfants, même si la loi leur donne cette obligation alimentaire et d'études, ne doivent pas culpabiliser et que tous les étudiants et tous les parents qui nous contactent ou qui nous entendent, qui sont actuellement dans une précarité, dans une détresse, quelle qu'elle soit, ne doivent pas hésiter à demander du relais financier, d'aide alimentaire, psychologique, parce que cette détresse-là, elle touche tout le monde et qu'il y a des aides possibles. Si on ne peut pas compter à l'heure actuelle sur le gouvernement et le peu de mesures qu'on nous accorde, eh bien on peut largement compter sur la solidarité, sur les organisations, sur les initiatives citoyennes, sur les syndicats, et que c'est excessivement important de ne pas rester dans son isolement, qu'on soit parent ou étudiant, et qu'on puisse demander ce relais parce qu'il existe. Et c'était aussi un élan d'espoir en fait qu'on voulait donner ce soir. C'était juste dire qu'on peut s'en sortir sans perdre trop d'entre nous, parce que le suicide étudiant, il est là, mais le suicide de parents isolés, il est là aussi. Le suicide de smicards, de travailleurs, de gens qui actuellement sont au chômage, il existe et il est présent. Et on entend toute cette souffrance, et n'hésitez juste pas à demander de l'aide, parce qu'il y en a. Peut-être pas gouvernementale, mais il y en a.
Alors, voilà. Justement, vous évoquez cette aide, cette solidarité, ces initiatives citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes déjà chez vous à Rennes ?
Complètement. Chez nous, à Rennes, par exemple, on a les distributions de protection périodique qu'on a mis en place. On a été la première fac de France à le faire. Et qu'on soit étudiant ou pas, on ne demande évidemment pas de carte étudiante pour venir chercher de protection périodique, parce que la précarité menstruelle, elle existe pour toutes les femmes, SDF, travailleuses, employées, étudiantes, peu importe. On a aussi les banques alimentaires qui se multiplient. On a des initiatives à Rennes qui sont extraordinaires. On a un cœur résistant qui a ouvert un village alimentaire à Rennes, qui est ouvert presque tous les jours, presque toute la journée, dans laquelle tout le monde peut venir chercher des paniers alimentaires. On a une épicerie gratuite sur le campus qui ne demande pas non plus de justificatif, qui ne demande pas de carte étudiante, dans laquelle les étudiants peuvent venir, ou étudiants ou pas d'ailleurs, venir chercher un panier alimentaire 3 fois par semaine. Et tous les syndicats, toutes les organisations, tous les étudiants qui montent des petits comités essayent au mieux de pallier à la crise actuelle, que ce soit avec du soutien psychologique, avec des parrains, comme en parlait la première étudiante, avec des aides alimentaires, avec de l'accompagnement pour demander des aides, parce que c'est parfois très difficile quand on est étudiant ou parent, on est perdu, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à regarder autour de soi, à s'informer, à taper des mots-clés et sa ville sur Internet. Et je vous assure qu'on trouve des initiatives solidaires, il y en a absolument partout, elles existent, et ça, c'est un brin d'espoir, quoi.
Très bien. Eh bien, écoutez, Lola, merci pour cette énergie et merci pour ces mots. Et puis, je vous souhaite plein de courage à vous et à tous vos copains, vos copines, vos relations, et puis tous les autres étudiants de la Fac de Rennes et partout en France, bien évidemment. Et je le rappelle, Europe 1 se fera bien évidemment le relais de ces voix, les voix de ces étudiants qui s'élèvent de plus en plus pour que nous tous en France, nous devenions solidaires de cette cause étudiante. Merci Lola.
Merci à vous Olivier, merci à Europe 1, merci beaucoup. Au revoir.